Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Frankreich ist Favorit. Inutile de traduire ce titre d'un quotidien basé en Forêt-Noire. De leur côté, nos journaux se réjouissent de ce sommet franco-allemand. Ça, c'est le Parisien. De cette première gorgée de bière, ça, c'est pour l'équipe France-Allemagne. Un match 6 étoiles, une affiche mythique, porteuse tout autant de traumatismes que de rêves de se transcender. Alors, pour rentrer directement dans le rythme, les Bleus pourront compter sur un peu plus de 2000 supporters français. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, des supporters qui sont arrivés à Munich ces dernières heures.
Oui, on voit de plus en plus de maillots bleus dans les rues de Munich. J'ai notamment rencontré ces 5 Parisiens qui, dès leur arrivée, ont trinqué bière à la main à la santé de l'équipe de France. Mais attention, il y a un protocole Covid à respecter pour rentrer au stade et ce n'est pas simple de s'y retrouver.
Les règles sont pas très très claires.
On est là, on galère à savoir ce qu'il faut faire. Alors en fait, soit on est double vacciné, soit on l'a déjà eu il y a moins de 6 mois, le Covid. Dans ce cas-là, il faut aller récupérer un bracelet au stade. Sinon, il faut faire un test.
D'ailleurs, en Bavière, il faut porter un masque.
Masque FFP, vaille. Alors qu'à l'extérieur, personne n'a de masque. La belle vie à Munich.
Oui, il s'agit d'un masque FFP2. Alors la France est bien sûr favorite, mais ses fans restent mesurés car c'est l'Allemagne en face.
Je pense qu'on est un peu trop confiant quand même, mais je pense que ça va être un beau match et ça va être accroché. Mais on va s'en sortir, j'ai pronostiqué dehors.
Mais ils ont une belle équipe aussi.
Bien sûr qu'il faut s'en méfier.
Toujours.
Non mais on a une équipe qui est sur le papier elle est plus forte.
On a une attaque qui est largement au-dessus, défense ça va, franchement normalement on doit gagner.
En tout cas ce groupe de supporters, vous l'entendez, a promis de chanter une belle Marseillaise et de faire le maximum de bruit pour encourager les Bleus.
Contre nous de la tyrannie.
La Marseillaise au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie à Munich. Cyril, vous serez ce soir aux commentaires avec Jean-François Pérez, soirée spéciale dès 20h et le match en intégralité à 21h sur Europe 1.
2000 supporters à Munich et, allez, disons 67 millions en France, sauf qu'en pleine pandémie, les autorités marchent sur un fil.
Après la dérogation au couvre-feu accordée vendredi soir aux spectateurs de Roland-Garros, pour ce soir, il y aura une tolérance. Jean-Gabriel Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
C'est le ministre de l'Intérieur qui le demande.
Voilà, c'est écrit noir sur blanc sur le télégramme qu'a envoyé Gérald Darmanin à tous les préfets hier soir. Le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre de faire preuve d'une particulière mansuétude dans le contrôle des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l'extérieur de leur domicile. Mais le ministère le précise, cette tolérance ne saurait être un prétexte pour pouvoir prolonger la soirée dans des bars, des restaurants ou sur la voie publique. Gérald Darmanin insiste, l'horaire du couvre-feu reste fixé à 23h. Déjà, une dérogation exceptionnelle avait été accordée aux spectateurs de Roland-Garros vendredi dernier, et cette nouvelle indulgence pour le match des Bleus ce soir pourrait raviver le débat sur le maintien du couvre-feu. Une restriction de plus en plus difficile à faire respecter, les jours rallongent, l'épidémie recule, et l'envie de faire la fête s'impose pour beaucoup de jeunes. On l'a encore vu le week-end dernier, notamment sur l'esplanade des Invalides à Paris. Officiellement, le couvre-feu doit prendre fin le 30 juin, dernière étape du déconfinement.
Les précisions de Jean-Gabriel Bourgeois.
La pandémie et encore un élargissement de la campagne de vaccination. À partir de ce matin, ce sont les ados qui sont concernés, les plus de 12 ans.
Pfizer pour tous, accord écrit des deux parents nécessaires et présence de l'un des deux. L'infectiologue Odile Launay, responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin à Paris, rappelait ce matin sur Europe 1 que les ados ne se vaccinent pas tant pour eux que pour les autres.
Le bénéfice pour eux, il n'est pas tellement un bénéfice sur leur santé physique, en tous les cas sur le risque d'avoir des formes graves de Covid qui sont exceptionnelles à cet âge, mais plus un bénéfice d'ordre à la fois social, familial, puisque ils ont été très impactés par la crise sanitaire et que l'idée c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir retourner au collège, au lycée, de pouvoir reprendre une activité sportive. Donc finalement c'est un bénéfice plus sur leur possibilité de reprendre une vie plus proche de la normale. Et ça passe par une immunisation très large de cette tranche d'âge et de fait la limitation de la circulation du virus.
Odile Launay, invitée du 5-7 de Sébastien Krebs ce matin.
Deux doses de vaccin, c'est fait en Israël chez 55% de la population. Alors à partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics fermés. À l'inverse, le Royaume-Uni, dont 57% des adultes ont pourtant reçu deux doses, retarde d'un mois les dernières étapes de son déconfinement. Le variant Delta, qui représente 96% des contaminations là-bas, fait repartir répartir les hospitalisations à la hausse.
8h06 sur Europe 1, l'heure du jugement aujourd'hui au procès d'IKEA France.
Soupçonné d'avoir espionné des centaines de ses salariés entre 2009 et 2012, le parquet avait requis 2 millions d'euros d'amende contre l'entreprise et 1 an de prison ferme contre son ancien patron. Autre procès, l'affaire Big Malion et une audition clé cet après-midi, celle de Nicolas Sarkozy. C'est pour sa campagne présidentielle de 2012 que les dépenses avaient atteint presque le double du plafond autorisé, d'où la mise en place de fausses factures.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Europe 1. En plus de 3 semaines de débat, ce sera la première fois que l'ancien président est présent à l'audience.
Oui, et dès le premier jour, son avocat Thierry Herzog avait tenu à expliquer au tribunal pourquoi, selon lui, son client n'avait pas sa place sur le banc des prévenus et il avait indiqué que l'ancien président serait là quand on l'interrogerait. Rendez-vous fixé donc cet après-midi à 13h30 pour répondre aux questions des juges. Alors sur le fond, contrairement aux 13 autres prévenus dans ce dossier, Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi pour fraude, mais pour financement illégal de sa campagne de 2012 avec ses 44 meetings, une campagne qui avait coûté plus de 42 millions d'euros, soit près du double du plafond légal de l'époque. Mais au terme de l'instruction, les juges avaient conclu que si le président candidat avait, je cite, incontestablement bénéficié de la fraude, ils avaient aussi conclu que ce dernier n'avait aucunement participé à la mise en place des fausses factures ayant permis à l'UMP de régler une partie des coûts et que rien n'indiquait qu'il en ait été informé. D'ailleurs, au terme de plus de 3 semaines de débat, le tribunal a toujours bien du mal à savoir qui a décidé de la mise en place de ce système frauduleux.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. À midi, à l'Élysée, une cérémonie qui ne sera pas filmée et pourtant, les observateurs politiques rêveraient d'y être pour scruter toute allusion à l'avenir. Édouard Philippe va en effet recevoir l'insigne de grand officier de la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron, décoration attribuée à tous les premiers ministres restés au moins 2 ans en fonction.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant l'Iran et nous verrons avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran comment le régime écarte des centaines de candidatures aux élections. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
3 jours avant l'élection présidentielle en Iran, les conservateurs semblent avoir un boulevard devant eux. Ils sont 5 parmi les 7 candidats et on ne parle là que des candidats autorisés à concourir puisque 600 candidatures ont été invalidées par le régime. À Téhéran, l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini, est allé à la rencontre de ses opposants qu'ils ne peuvent pas se présenter.
C'est dans le salon d'une résidence bien protégée que Sayed Tarjizadeh rumine l'annulation de sa candidature. Ancien cadre du ministère de l'Intérieur, il est très sévère avec les organisateurs du scrutin.
Tous ces dossiers invalidés, c'est du jamais vu. Je considère même que c'est un coup d'État car tous les concurrents qui étaient en mesure de battre le conservateur Ibrahim Raisi ont été écartés.
Pas de quoi gêner les commerçants du Grand Bazar. Leurs revenus ont chuté. Rasoul vend des fruits secs et il affirme que si les Iraniens consomment moins, ce n'est pas seulement à cause des sanctions internationales.
Ceux qui sont en place en ce moment sont responsables de la situation. Le président modéré gère mal ce pays. Alors j'irai voter pour ceux qui ont un plan.
Et les conservateurs ont un plan, dit-il. Un plan, c'est bien ce qui dérange Céline, jeune commerciale qui n'ira pas voter.
Mon bulletin ne changera rien, car la personne qui va gagner cette élection a déjà été désignée.
Ibrahim Raisi, c'est le seul nom qu'elle connaisse, comme si les 6 autres candidats passaient sous les radars de la population. Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Retour en France à présent avec cette initiative originale et rare dans le monde de l'art puisque c'est une première, une vente aux enchères dédiée aux femmes artistes.
Oui, ce sera chez Christie's à Paris demain après-midi. 110 œuvres, photos, tableaux, sculptures, manuscrits. Le public peut d'ailleurs les découvrir jusqu'à ce soir 18h. Diane Chenouda.
Une photo de Bettina Reims, une nana qui danse de Niki de Saint-Phalle. Et puis il y a cette lettre d'Edith Piaf, lettre de rupture envoyée à Yves Montand. Alice Chevrier, spécialiste en livres et manuscrits chez Christie's.
Elle termine d'ailleurs la lettre en écrivant « Je signe pour la dernière fois Pupus ». Donc ça reste malgré tout assez tendre. Néanmoins, quelques jours auparavant, elle avait reçu un télégramme de Yves Montand, avouant lui-même en fait qu'il se considérait comme trop jeune pour elle. Ils avaient en effet 6 ou 7 ans d'écart. Donc on est porté à se demander qui est vraiment celui qui quitte l'autre le premier.
À la vente également, de belles éditions originales, L'amant de Duras, Le deuxième sexe de Beauvoir, pour cette première vente consacrée aux femmes artistes.
Les femmes artistes ont toujours existé, évidemment, mais l'histoire de l'art ne leur a pas toujours laissé la place qu'elles méritaient. Donc on espère aussi qu'avec cette vente, on va pouvoir les mettre en lumière différemment et justement représenter la création féminine, de la bande dessinée à la haute couture, en passant par les beaux-arts.
Une vente estimée entre 2 et 3 millions d'euros.
Diane Chénouda, est noté qu'il y a aussi simultanément à Paris une exposition sur les peintres femmes de 1780 à 1830. C'est au musée du Luxembourg.
Merci beaucoup François Geffrier, c'est noté. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.